Voilà, donc c'est l'heure pour un sujet donc théologique un peu, peut-être un petit peu curieux, mais j'ai vu que c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça, parce que Thomas Romer, qui est quand même une des sommités, qui est professeur donc aux hautes études sur la Bible, eh bien, a choisi ce thème pour un séminaire sous la forme, un séminaire un peu de 2 jours, la semaine prochaine, en fait, lundi et mardi, sur exactement ce thème-là. Alors, je soupçonne qu'il est copié.
Oui, je pense. Forcément. Il n'y a pas d'autre explication.
Il ne faut pas d'autre explication. Exactement le même thème, donc lundi et mardi prochain, aux hautes études, au Collège de France.
Mais c'est pas nous qui intervenons, là, par contre.
Mais c'est pas nous qui intervenons, donc c'est au Collège de France. Oui. Collège de France. Il a la chaire milieu biblique du Collège de France, qui est une chaire qui a été, donc... Il y a pas mal d'ailleurs de bonnes vidéos sur le site du Collège de France, avec plein de bonnes vidéos de ces cours. C'est assez intéressant. Alors c'est vrai que peut-être que l'axe n'est pas tout à fait le même que celui que nous avons ici, qui est quand même assez délibérément quand même spirituel, si je puis dire. C'est-à-dire que ça aborde des sujets qui sont peut-être plus directement nourrissants pour la vie personnelle, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se complète bien. Alors, le sujet, c'est, voilà, anges, démons, autres créatures diverses. Et donc, j'ai pris quelques textes bibliques, comme d'habitude, que je vous ai sélectionnés pour essayer déjà de débroussailler un tout petit peu le texte. C'est vrai que c'est peut-être pas un thème auquel nous sommes si familiers que ça, parce que c'est vrai qu'à l'oratoire, on aime volontiers... un petit peu, j'allais dire, démythologisé, pour reprendre un peu le terme de Bultmann, mais James nous expliquera ça peut-être mieux tout à l'heure. En tout cas, je pense que c'est déjà pas obligatoire de croire littéralement à l'existence des anges, des démons, des différentes créatures et du diable. On peut le lire soit littéralement, c'est ce que font beaucoup de chrétiens, c'est ce que font manifestement les auteurs bibliques, je pense, pour un certain nombre, pas pour tous, je pense. C'est, me semble-t-il, quand même un peu la lecture que proposent plutôt les auteurs du Nouveau Testament. Cela dit, parmi les chrétiens aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que c'est métaphorique, d'autres qui pensent que c'est à prendre au sens littéral, qu'il y aurait des créatures comme ça, intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alors, si j'ai mis en premier Romains 8, c'est pour dire que de toute façon, c'est pas une question de salut, c'est-à-dire, c'est que de toute façon, là, il y en a dans Romains 8 un petit catalogue que donne l'apôtre Paul de la puissance de l'amour de Dieu en Christ, manifesté en Christ. Alors déjà, c'est une expression qui me semble intéressante, mais cet amour de Dieu, donc, il est plus fort que les puissances, les créatures diverses, et donc c'est pour dire que, de toute façon, l'essentiel n'est pas là, finalement. Parce que, de toute façon, pour ce qui est des créatures négatives, eh bien, des puissances négatives, Dieu, l'amour de Dieu est plus fort que ça, il en triomphe. Et bonsoir. Et pour ce qui est des puissances qui seraient positives, peut-être comme les anges, eh bien, de toute façon, c'est pas ça qui va pouvoir non plus être l'essentiel, puisque l'essentiel c'est l'amour de Dieu. Bon. On voit aussi dans Actes 23 que finalement c'est assez discuté de savoir si les anges, les esprits existent, puisque à l'époque de Jésus. Donc il y avait les pharisiens et les sadducéens, deux courants dans le judaïsme, et que les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie... Il n'y a pas de vie après la mort. Et puis ils pensent qu'il n'y a pas non plus des anges, des esprits. C'était discutable. Donc eux aussi, ils faisaient, l'Ancien Testament, il est peu question de vie après la mort dans l'Ancien Testament, à mon avis délibérément, pour nous recentrer sur la vie présente avec Dieu. Pour ce qui est des anges, des esprits, des démons, du diable, il en est question dans l'Ancien Testament, donc manifestement les Sadducéens, en faisant une lecture, démythologiser, c'est-à-dire en faisant une lecture au deuxième degré, au sens figuré de ces créatures. Alors, on va voir ensuite, si vous voulez, que dans le texte de la Bible, quand il est question d'anges, par exemple, ce qui est assez discutable, c'est que, bon, dans le français, il y a marqué ange, mais dans le texte, il n'y a pas marqué ange. Ou au contraire, il y a marqué ange, effectivement, dans le texte grec de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Mais ça ne veut pas dire ange. Angelos en grec, ça ne veut pas dire ange. Ça veut dire tout simplement messager, en fait. Et donc, quand c'est peut-être quelque chose avec des plumes et puis qui est un peu une créature un peu surnaturelle, et ben, ils traduisent par ange. Mais quand c'est quelqu'un qui envoie un messager, bah, ils ne mettent pas ange, ils mettent messager. Alors j'ai regardé, il y a en tout cas, à la louche, hein, c'est-à-dire selon ma concordance informatique, quand on regarde angelos, c'est, ou alors maléak en hébreu, c'est la même chose, eh bien, il y a 76 fois, c'est traduit par messager, 98 fois par ange. Donc, en gros, 50-50, parce qu'il y en a qui sont traduits ni par messager ni par ange, mais par encore autre chose, par envoyé, par je ne sais pas quoi. Donc, en gros, c'est 50-50. Donc, vous voyez que c'est un peu une tromperie, parce qu'ils traduisent par ange en gardant le mot grec, en le décalquant en français. Ben, en fait, au lieu de mettre une fonction, ils en font une créature. Et c'est eux qui en font une créature. C'est le traducteur qui en fait une créature. Alors que si on avait gardé simplement le mot tout banal pour dire ange, messager ou envoyé ou quelque chose comme ça, dans le texte hébreu ou dans le texte grec, eh bien, ce serait beaucoup plus neutre, en tout cas. Ce serait beaucoup plus honnête, beaucoup plus fidèle. Mais ils se sont amusés, finalement, à nous faire croire aux anges, en fait. Alors, donc un exemple, si vous voulez, Genèse 32,3, je ne vous l'ai pas mis, parce que c'est juste un... Jacob envoya des messagers à Ésaü. Ben, ils n'ont pas mis « envoya des anges à Ésaü ». Pourtant, pourquoi pas? Au début de Genèse 32, il est question d'anges qui rendent visite à Jacob. Donc, dans le même passage, ils traduisent « maléak » aussi bien par « ange » quand ça leur semble des anges parce que c'est Dieu qui les envoie, puis ensuite ça ne les gêne pas de traduire simplement par « envoyé » parce que c'est Jacob qui envoie des gens pour aller rencontrer son frère. Bon. Dans Luc 9, 52, il y a Jean-Baptiste qui envoie de ses disciples pour voir Jésus, se renseigner un peu. Alors là, ils n'ont pas marqué que Jean-Baptiste envoie des anges vers Jésus. Pourtant, c'est angelos, angeloi, au pluriel, et donc il envoie... La traduction nous met, ils envoient des messagers. Autre exemple, le prophète Malachie. Ben, Malachie, ça veut dire mon messager, en fait, littéralement. Donc, monsieur, mon messager. Alors, bien sûr, bon, son nom, c'est mon messager. Alors, on ne traduit pas les noms propres, mais bon, ça veut dire que c'est quelqu'un, en tout cas. Et puis, c'est un prophète qui s'appelle mon messager, messager de Dieu, quoi. Ou bien, pour le prophète Agé, on dit, bah, Agé, c'est marqué à Agé, il y a Dieu qui dit, Agé est mon ange, mon messager. Donc, c'est pour dire que, voyez, alors ça, je l'ai mis, Agé, l'ange de l'Éternel dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous. Ben voilà, Agé, ange de l'Éternel. Bon, dans la Bible, vous regarderez, il y a marqué messager de l'Éternel, il n'y a pas marqué ange. Parce qu'il se dit que cet ange-là, il n'a pas des ailes avec des plumes, il a des pieds, quoi. Donc, ils se sont dit, bah non, c'est pas un ange, c'est un messager. Mais en fait, ils nous induisent en erreur. Et puis, on voit que dans le psaume 104, l'Éternel fait des vents, des anges, ses anges. Voilà. Donc, il y a pas mal de sortes d'anges, de messagers. Ben oui, les messagers, donc on a déjà vu, si vous voulez, ça peut être des éléments, la nature. Il y a un joli psaume, hein, qui, je l'ai marqué psaume 19, hein, mais il n'y a pas marqué le mot ange. Mais enfin, on voit que la nature chante la gloire de Dieu, vous voyez. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains, le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son soit entendu, le retentissement parcourt toute la terre. C'est très poétique, mais donc ça veut dire que la nature elle-même est un ange, finalement, de l'Éternel, un ange de Dieu, pour nous porter un message. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul hein, dans le premier chapitre des Romains, c'est que si on savait voir lire la nature, finalement, le grand livre de la nature, comme on dit, ben, on pourrait déjà avoir quelque chose, savoir quelque chose sur l'existence de Dieu et ses qualités. Donc voilà, la nature elle-même se fait ange, se fait messager de quelque chose de Dieu. Alors, ce n'est pas la seule possibilité, donc le messager qui est humain, le messager qui est la nature, mais dans le buisson ardent, Exode 3, vous voyez, c'est un peu emmêlé, parce que l'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Donc là, l'ange est une flamme, en fait, ou dans une flamme. Bon, alors on pourrait se dire, c'est une sorte de bête à plumes aussi. Ben non, en fait, parce que c'est l'Éternel qui vit qu'elle se détournait pour voir, et Dieu appela du milieu du buisson. Donc en fait, on confond, vous voyez, Dieu qui parle directement, et puis un ange, c'est à la fois les deux. Donc à ce moment-là, à mon avis, l'ange, c'est une expérience, ça exprime une expérience spirituelle, c'est-à-dire que spécialement, bon, nous, on y est assez attachés comme protestants, en fait, c'est que on est... Bonsoir, Christelle. Dieu parle directement à la personne humaine, à la personne individuelle humaine. Et donc, par la prière, bon, pas sans arrêt, 24 heures sur 24, heureusement, mais c'est pas impossible que nous recevions quelque chose qui est de l'ordre de l'Esprit-Saint, quelque chose qui est de l'ordre de la parole. Mais là encore, ce sont des façons de parler, des façons de dire. Cette expérience spirituelle, ou peut-être comme dans le psaume... que je viens de vous lire, le psaume 19, c'est pas vraiment un langage de Dieu, mais c'est quelque chose qui surgit à l'intérieur de la personne, qui donne du sens, qui ouvre des pistes nouvelles, qui donne, qui crée, qui est source d'une évolution. Et donc on pourrait dire, il y a parole de Dieu. Et s'il y a de la parole de Dieu qui a été transmise, on pourrait dire dans un sens qu'il y a ange. Donc, Ça va se retrouver sous le vent, si vous voulez, ce glissement entre des anges qui viennent, et puis tout d'un coup c'est Dieu, et on ne sait plus si c'est Dieu ou si c'est des anges. Par exemple, le plus connu, c'est peut-être Genèse 18. Vous savez, il y a Abraham qui est un peu désespéré, parce qu'ils n'arrivent pas, malgré la promesse, à faire un enfant avec sa femme. Bon, c'est pas hyper étonnant, parce que lui, il est carrément centenaire, et sa femme en a presque autant, donc si vous voulez, c'est pas d'une évidence totale. Eh bien, pourtant, il fait un peu la sieste à l'ombre d'un chêne, à Mamré, devant sa tente. C'était un moment très agréable de sieste mexicaine. Et à ce moment-là, il y a trois hommes ou trois anges qui arrivent. Alors cet épisode est très connu parce qu'il est représenté, de nombreux tableaux, même représenté par la fameuse Trinité de Roublev. Vous savez, on dit que c'est un peu les trois anges aussi qui ont visité Abraham. Et donc, dans tout ce texte Genèse 18 et puis Genèse 19, c'est, des fois on dit trois hommes, des fois on dit c'est Dieu lui-même qui parle, et puis ensuite les anges vont se promener, puis il y en a deux qui apparaissent à Sodome. Donc on ne sait jamais tellement s'ils sont deux, s'ils sont trois, si c'est des hommes, si c'est Dieu lui-même, si c'est des anges. Donc tout ça c'est un peu compliqué, et ça montre, si vous voulez, déjà qu'à l'époque, entre l'ange et l'expérience spirituelle, c'est pas très loin. Et donc l'ange, c'est une façon de dire la théophanie, comme on dit en termes techniques, c'est-à-dire une apparition de Dieu, Dieu qui se manifeste d'une manière sensible, c'est beaucoup dire, parce que est-ce que l'ange est accessible au sens ? Ça, je ne sais pas, c'est très discutable. Il semblerait, si vous voulez, dans un certain nombre de textes, que ce seraient plutôt des êtres sans corps. Alors certains... Voilà, il y a des moments, par exemple, dans Genèse 18, Abraham se précipite et il va préparer ou faire préparer à sa femme, selon la bonne tradition... Il fait préparer une blanquette de veau et puis il fait préparer aussi un peu du pain. Et donc, il donne à manger à ça quand même. Il partage ce repas dont on connaît le menu. qui est pourtant un menu pas très cachère, hein, de faire bouillir, de faire cuire le veau dans le lait de sa mère, c'est quand même pas cachère, mais il le savait pas peut-être à l'époque. Et donc, et c'est que les anges, s'ils peuvent manger, ils sont quand même, ils ont sans doute quand même une bouche et un tube digestif, je suppose. Je sais pas. Donc, en tout cas, si vous voulez, on voit qu'il y a là une simplement dans ces glissements qui sont présents au milieu du texte, il y a là une ouverture pour que nous puissions le lire soit plutôt littéralement, mais à mon avis une invitation à le lire déjà d'une manière assez ouverte, comme étant donc des anges, quelque chose qui se transmet de la part de Dieu à travers une personne, à travers des signes, à travers la nature par exemple, ou à travers une expérience spirituelle. Alors, par exemple, dans Jacob, il y a un passage très connu, hein, donc je ne vous l'ai pas mis là, mais c'est parce que c'est trop connu, hein, c'est donc Genèse 28. Ça aussi, c'est quand même représenté dans les tableaux, c'est l'échelle de Jacob, on dit, c'est-à-dire qu'il fait un songe. Déjà, le fait que ça soit au cours d'un songe qu'il voit des anges, ça veut dire aussi, là, quelque chose de l'expérience quand même de foi, l'expérience de l'inconscient, l'expérience intérieure. Hein. Et donc, dans son rêve, il voit une échelle plantée à terre et dont la tête va au ciel. Et ben, si, je l'ai mis, Genèse 28. Hein. Et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. » Et puis il dit, « Voilà, la terre dans laquelle tu te trouves, je te la donnerai. » Et puis il y a cette promesse, voilà, tu vas pouvoir avancer vraiment dans la liberté, avance selon ton inspiration, parce que je serai avec toi, donc avec un Dieu qui nous accompagne. Alors là, on voit qu'il y a quand même une distinction entre Dieu et les anges, puisque Dieu est au sommet de l'échelle et il est unique, alors que les anges, ils montent et ils descendent et ils sont multiples. Donc, là, il y a une distinction entre le média et la source. La source est le récepteur. Donc, vous voyez, les anges, ils ne font pas simplement que descendre. Et ça, c'est intéressant. C'est pour ça que je rappelais que l'alliance qui est donnée là avec Jacob, c'est une alliance qui est quand même assez nouvelle, dans un sens où Dieu est celui qui va suivre l'homme, se met au service de l'homme. C'est l'homme qui est l'initiative de son cheminement, et puis Dieu va suivre l'homme pour l'aider, l'assister, l'accompagner, le sauver, rattraper le coup, voilà. Et ça, c'est assez nouveau, parce qu'on s'imagine parfois que la religion, c'est comme une aliénation, ou alors c'est comme du dressage. On te dit, voilà, le chemin qui est le seul bon, on vous le révèle. Maintenant, il faut le suivre. Et on vous a averti, si vous vous écartez du chemin, eh bien, vous allez mourir. Si vous suivez le chemin, vous allez vivre. Donc là, c'est l'inverse, vous comprenez. C'est l'homme qui invente son chemin et c'est Dieu qui va suivre. Et finalement, c'est ce que disent ces anges qui montent et qui descendent. C'est-à-dire, Dieu a son mot à dire, mais l'homme a son mot à dire aussi. Et c'est comme une sorte de dialogue, en fait, où l'homme est appelé à être fidèle à Dieu et où Dieu va être fidèle à l'homme. Où Dieu bénit l'homme et l'homme est appelé à bénir son Dieu. Et donc finalement c'est ça que viennent dire ces anges, c'est la possibilité de la prière finalement, et d'une prière nouvelle qui est un nouveau type d'alliance, peut-être pas comme Moïse ou alors peut-être même comme Abraham, voyez, où il y a la parole de Dieu qui descend sur Abraham, qui lui dit « Va, tu es béni, tu seras source de bénédiction, maintenant tu vas avancer vers le pays que je te montre. Tu ne le connais pas, tu ne sais pas vers lequel tu avances, mais suis la direction que je te donne. » Donc par rapport à ça, c'est le stade d'après encore, avec pas simplement un ange qui descend, mais avec un ange qui est des anges, plein d'anges qui descendent et qui montent. Donc ça, c'est quand même quelque chose de nouveau. Donc nous aussi, on peut émettre des anges. Voilà. On peut faire monter un point de vue à travers l'ange. Donc pour l'instant, ça va, les anges ? Vous en avez vu? Ben peut-être si, justement. Avec des ailes, vous n'avez pas vu. Voilà. Voilà, exactement. Voilà, on en rencontre. Voilà. Surtout que si vous voulez, ce qui n'est pas évident, c'est que, on le voit à l'époque de Jésus, ce n'était pas d'une évidence totale que ce genre d'expérience, ça s'adresse à tout le monde. Parce qu'il pensait que ben voilà, la source de la parole était terminée. Donc finalement, il n'y avait plus d'anges qui se promenaient. Il n'y a plus d'anges. Donc ça, c'était quand même un peu triste. Et en Jésus-Christ, normalement, le canal est ouvert, et ouvert largement. Avant, il y avait des champions comme ça qui recevaient la visite d'un ange. Ce n'était pas forcément pour tout le monde. Ou d'avoir la légion d'anges qui montent et qui descendent, c'était quand même pour des patriarches. C'est vraiment le nœud de l'alliance, le point de contact avec Dieu, le patriarche ou le prophète, finalement. Mais avec Jésus-Christ, tout le monde est prophète. C'est-à-dire que voilà, l'esprit est répandu sur chacun, et donc l'esprit, c'est un autre mot pour l'ange, en fait. Des fois, les anges sont appelés esprit. Donc c'est là un autre mot. Tout le monde est appelé à avoir la visite d'un ange, finalement, d'ange, dans sa prière, dans sa méditation, dans son intelligence peut-être aussi, dans sa réflexion, dans son inspiration. Ça change quelque chose. Alors c'est vrai que si vous voulez, par rapport aux musulmans aussi, ça fait une différence, parce qu'eux, ils pensent que dans l'évangile, Jésus annonce le paraclet qui serait un nouvel ange, un nouveau prophète. Voilà. En fait, le paraclet, non, ça annonce pas qu'il y aura un seul prophète qui sera le prophète ultime. Ça annonce que le salut ultime, c'est que tout le monde reçoit l'esprit, et que donc tout le monde devient prophète et prophétesse. Et c'est ça, finalement, qui change un peu quelque chose, à mon avis, dans le Messie. Donc les anges, l'expérience de Jacob, elle est donnée à tous. Et d'ailleurs, Jésus le cite, cette expérience, au début de l'évangile selon Jean, à propos de Nathanaël, en disant, vous verrez le Fils de l'homme avec des anges qui montent et qui descendent. Alors le Fils de l'homme, c'est bien sûr, avec des majuscules à fils et à homme, c'est le Christ. Mais Fils de l'homme, fils et fille de l'homme, ça veut dire aussi, il y a des fils et filles de monsieur et madame tout le monde, les fils de l'humain finalement, fils et filles de l'humain, enfants de l'humain, et c'est nous tous et nous toutes bien sûr, auquel est promis ces anges qui montent et qui descendent. Alors ensuite, on va voir des anges qui sont source de miracles et de secours. Donc, par exemple, il y a Jésus sur la croix qui dit... je ne sais pas si c'est sur la croix, Matthieu 26, il faudrait vérifier, j'ai oublié.
Non, c'est quand il se fait arrêter dans le jardin de Gethsémani.
Ah, c'est quand il se fait arrêter, voilà. Ah oui, c'est quand il se fait arrêter. Voilà, il dit à Pierre, utilise pas ton épée. C'est pas la peine de faire preuve de violence moi-même, je pourrais convoquer des légions d'anges, des myriades d'anges, 12 myriades d'anges. Alors une légion, c'est, je sais pas, 6 ou 7 000 soldats, je sais plus. Ça fait quand même un paquet d'anges qui viendraient à son secours. Et puis on voit aussi dans Marc, dans les tentations de Jésus, donc c'est à l'autre bout du ministère de Jésus, donc il y a les anges qui servaient Jésus, qui viennent lui cirer ses sandales. Et puis il y a aussi à Gethsémané, il est pris d'angoisse, de souffrance et de doute devant la suite des événements. Et il se dit, bon, moi je verrai un peu la suite différemment en fait. Donc il songe un peu à se sauver, encore une fois finalement. Et là, il y a un ange qui vient pour le réconforter. Et puis on a dans Actes... un ange qui vient libérer donc les apôtres de la prison. Il y a plusieurs épisodes comme ça dans les Actes, et donc ça c'est l'ange qui vient au secours libérer. Alors à partir de ces sources, cet ange qui vient nous donner de la force, ou qui vient même carrément faire un miracle dans notre existence, c'est finalement la même chose que l'ange qui vient porter la parole, parce que quand on dit parole de Dieu, c'est pas simplement un parchemin avec marqué quelque chose. La parole de Dieu, c'est pas des, comme dans le psaume 19, hein, c'est pas des mots intelligibles, cette parole de Dieu. Cette parole de Dieu, c'est un acte de création, un acte de libération qui brise les chaînes, qui ouvre les portes, qui redonne de la force, qui réconforte. Et donc tout cela, à mon avis, bon, il y a des gens qui vont lire littéralement la libération de prison. On a le droit, bien sûr. Mais en tout cas, alors Matthieu 26, je ne sais pas si les légions d'anges, ça sera plus des anges. De toute façon, s'ils portent de la parole, si vous voulez, c'est quand même par la parole. Ça veut dire, normalement, la parole, c'est quand même plutôt quelque chose d'une intervention quand même plutôt douce, vous voyez. C'est plutôt, bon, il peut envoyer 12 légions d'anges, mais qui vont crier le message bien fort. Mais ensuite, le propre de la parole, c'est qu'on n'est pas forcément d'accord, qu'on l'écoute peut-être pas, et qu'on peut très bien dire faire le contraire de ce que dit la parole. Vous voyez. Donc c'est une façon, de toute façon, plutôt qu'est de l'ordre... C'est un acte de création, mais là, de donner la parole, mais c'est un acte de création qui est proposé comme dans un dialogue. Alors ensuite, il y a des différentes catégories d'anges. Alors les deux plus connus, pratiquement les seuls, il y en a peut-être une autre, mais je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Hein, il y a peut-être les ophanimes dans les roues de la vision d'Ézéchiel. J'ai des doutes que ce soit vraiment des anges, mais peut-être. En tout état de cause, il y a les chérubins et les séraphins que l'on voit apparaître dans certains passages. Alors c'est des anges... des catégories d'anges particulières, hein. Des spécialisations. Alors les chérubins, ils sont surtout connus pour deux choses. Je crois pas qu'ils apparaissent tellement ailleurs. Quand Adam et Ève sont chassés du paradis, du jardin d'Éden, Dieu met des anges pour garder le chemin du paradis, pour la garder finalement, le garder ce chemin du paradis. Et le chemin donc de l'arbre de vie. Alors, ça peut être, on ne sait pas très bien ce que veut dire chérubim, hein, kéroub en fait, parce que le im c'est plutôt le pluriel, donc c'est un kéroub, des kéroubim. Ils vont toujours par multiples comme ça, peut-être par deux, bien que si c'était toujours par deux, ce serait plutôt un duel, parce qu'il y a trois. En hébreu, il y a le singulier, le duel pour deux et le pluriel pour plus que deux. Mais là, c'est kéroubim, c'est un pluriel simplement. Sinon, ce serait kéroubaïm, je pense, ou quelque chose comme ça. Mais en fait, non. Donc, il y a toujours plusieurs... C'est comme les ténèbres en français, c'est toujours au pluriel. Donc, on peut dire la ténèbre, mais c'était assez poétique, non ? On dit les ténèbres, c'est quand même plutôt pluriel. Il y a des mots comme ça qui sont toujours au pluriel, non ? Les obsèques, toujours au pluriel, non ? Enfin, j'en sais rien. Je suis pas très... J'ai oublié ça, j'ai appris ça moi, en primaire, mais j'ai oublié. Les mots qui sont toujours au pluriel, les mots qui... Bon, je sais pas. Bref. Hein. Les chérubins, moi, j'ai toujours vu au pluriel. Hein. C'est pour ça qu'on dit des chérubins. Le deuxième, c'est des sculptures sur l'autel, l'arche d'alliance de Moïse. Il y a des sortes de chérubins, des sortes d'anges avec des ailes qui sont sculptées. Et finalement, on voit que c'est là que Moïse reçoit un peu la parole. Donc, c'est un peu comme un... Je ne sais pas. Un peu comme quand on décrochait le combiné dans le temps. Vous voyez, on le met sur l'oreille et on l'entend mieux, quoi. C'est un peu quelque chose comme ça. Je sais pas, ou des haut-parleurs, un casque, on met sur les oreilles, on entend mieux. Et les kéroubim qui gardent la porte, ben, ils gardent la porte et ça donne un peu le chemin pour le trouver. Voilà. Alors les séraphins, eux, c'est quand même plus clair comme fonction, parce que saraf, ça veut dire le chaud, le brûlant. Et donc, vous voyez, c'est là que c'est ambigu, parce que les serpents brûlants de nombre, c'est connu, parce qu'il y a le serpent d'airain de Moïse qui lève sur un bâton, ben, c'est un serpent brûlant aussi, ben, c'est un serpent séraphin. Et alors le plus connu des séraphins, c'est quand même avec Isaïe. Quand il a une vocation, le prophète devient un prophète, il est appelé, et il dit « Mais moi je suis complètement nul, je suis un pécheur comme tout le monde. » Donc, alors il y a les séraphins qui disent « Oui, ça c'est quand même un problème, mais bon, on va pouvoir le régler. » Donc ils prennent une braise sur l'autel, et puis ils peuvent cautériser, je dirais, soigner la langue d'Ésaïe, la purifier. Et donc le séraphin, c'est des anges de purification, c'est des anges de salut au sens où ils vont détruire le mal, la pourriture qui est en nous pour garder le meilleur. Donc on pourrait dire que c'est les anges qui manifestent l'amour de Dieu finalement. Alors c'est un peu la même chose que du coup on voit dans le livre des Nombres, les serpents ils sont à la fois mortels, à la fois source de salut. Donc ils gardent ceux qui ont un regard vers le haut, ceux qui ont un regard positif, un regard vers le salut de Dieu, et puis ils tuent ceux qui sont nuls. Donc c'est là encore un service de purification du peuple, de la personne humaine, et c'est un des rôles des anges. Alors il y a des anges particuliers dont on connaît les noms propres dans la Bible, il y a Gabriel, Michaël, Michaël on le connaît à peine, et puis Raphaël. Bon, c'est vrai que ces trois anges-là, si vous voulez, c'est assez facile parce qu'on prend un nom, une qualité, hein, on rajoute « elle » derrière, et du coup, c'est cette qualité de Dieu, ça exprime une fonction par laquelle Dieu agit, et du coup, c'est un ange, c'est un service de Dieu. Et donc, entre service de Dieu, service que rend Dieu, et puis le serviteur de Dieu, ça personnifie un peu ce service dans un sens, mais on voit de quoi ça parle. Donc Gébora la force, avec elle, ça fait Gabriel, quoi, et c'est l'ange qui, l'ange de l'Annonciation à Daniel, à Zacharie, à Marie, c'est un ange qui donne de la force, qui donne une puissance d'être, finalement, à la personne. Alors ce Zacharie, c'est pas le prophète, c'est le père de Jean-Baptiste, hein, donc voilà. Il y a donc Michaël, ça c'est rigolo, parce que c'est qui est comme Dieu, hein. C'est donc un questionnement qui est donné et ça rallume une foi affaiblie, ça permet de combattre les dragons, c'est assez utile. Bon, ça apparaît très peu, donc c'est très discutable de savoir exactement ce que ça veut dire, mais en fait qu'il y a un ange qui s'appelle « qui est comme Dieu ?», c'est l'ange du bon questionnement, voilà. Et puis Raphaël, c'est Dieu qui guérit, alors ça apparaît que dans quelques, voilà, deux terreaux canoniques, comme on dit, c'est les apocryphes qui ne sont plus très bien dans nos traduction protestante depuis le milieu du 19e, c'était avant dans les Bibles protestantes. Alors ça c'est pour les anges, et ça c'est quand même plus positif un ange, enfin, c'est quand même plutôt sympa, ça apporte plein de choses.
À propos de positif, négatif, les dominations, les puissances, et puis il y a un troisième terme qui m'échappe. Ça peut être ou positif ou négatif,
c'est-à-dire qu'il y a une légende qui dit, on la voit un peu dans deux pierres, qu'il y a les anges, ils avaient le choix quand même, et ils pouvaient se convertir ou non finalement, ou ils pouvaient désobéir à Dieu. Et donc, dans deux pierres, on voit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y a des faux docteurs, tout ça. Et il dit, attention, vous risquez d'avoir chaud aux plumes. C'est le cas de le dire, parce que Dieu lui-même... Les anges qui ont péché, ils ont été précipités dans les abîmes, dans les ténèbres, et donc du coup ils sont devenus des démons finalement. Et donc finalement les anges deviennent, c'est les anges déchus, c'est des démons. C'est des anges qui ont choisi le mal en fait. Mais au début ils ont été créés comme bien. Et donc ça c'est, voilà, dans le Nouveau Testament, voilà, Dieu a créé... Et puis avec le Christ, finalement, il crée toutes choses, y compris les puissances d'en haut, les puissances d'en bas, les créatures, tout ça. Et donc, en fait, il y a des anges, des esprits maléfiques, finalement, qui sont des sortes d'anges déchus. Et donc, ces démons, ils peuvent infecter l'homme, finalement. Alors, on peut le voir dans plusieurs passages, par exemple... on le verra mieux avec le diable qui est derrière au verso de la page, hein. Ça peut infecter finalement ces anges mauvais qui se sont convertis au diable. Eh bien, ils peuvent venir nous influencer, nous infecter, comme un ange peut nous donner un bon message. Eh bien, le diable, à travers des démons, peut nous souffler des mauvais messages. Et c'est même plus que ça, on le voit, les démons, c'est quelque chose qui peut venir nous, comme un virus finalement, entrer à l'intérieur de nous-mêmes, et comme l'esprit peut entrer à l'intérieur de nous-mêmes et faire qu'on devient un ange, eh bien, on peut devenir finalement démoniaque quand on est infecté par un démon. Alors, je parlais de créatures. Moi, je connais que finalement, le plus connu, c'est le Léviathan, qui, à mon avis, est une figure du chaos, c'est-à-dire c'est qu'une sorte de cercle de monstre du Loch Ness, qui est une figure du chaos, une figure un peu personnifiée du chaos. Et ça, je crois que c'est intéressant, parce que, si vous voulez, dans le début de la Genèse, Dieu il crée pas contre un ennemi actif. Dieu, il est le seul puissance transcendante. Il crée avec son esprit, on pourrait dire, bon, là, il y a un peu une dimension angélique, j'allais dire. Et il crée en ordonnant le chaos. Mais le mal, c'est pas du mal personnifié ou organisé, c'est le chaos, c'est le désordre. Et donc, ce désordre, il peut prendre la figure d'un Léviathan, c'est-à-dire un peu un dieu marin, le dieu de la mer, finalement, qui vient, la mer étant le type même du chaos, c'est-à-dire de ce qui peut nous engloutir. Alors, il y a des fois un autre nom, c'est Béhémoth. Alors, c'est vrai que si le Léviathan, c'est un peu le nom du crocodile, Béhémoth, c'est un peu le nom de l'hippopotame, mais c'est plus que ça, c'est plus qu'un crocodile et un hippopotame, c'est des figures donc du chaos. Alors ensuite, le diable. Ça, c'est beaucoup plus discutable parce que, si vous voulez, avec les anges, il y a quand même encore l'idée que c'est soit une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu, et qu'on en parle comme ça, manifestation de Dieu soit directe, soit par son esprit, soit par des signes, soit par des personnes. Mais ça reste des créatures. Même les démons, ça reste des créatures qui ont mal tourné, qui se rebellent contre Dieu, mais des créatures quand même. Si on suit un peu ce qui est dit là-dedans. Le Léviathan, Béhémoth, c'est néfaste, mais c'est quand même créé par Dieu, si vous voulez, hein, que tu as formé pour jouer dans les flots, dit le psaume 104. Ah, le diable, c'est plus délicat, parce que le diable, c'est une puissance transcendante, personnifiée du mal. On ne parle pas que ça a été créé par Dieu, ce serait quand même vraiment problématique. Alors, il y a des explications qui peuvent être données à ça. Ça ressemble quand même bougrement à du dualisme, en fait. C'est-à-dire, on ne serait plus dans le cadre du monothéisme. Il y a un Dieu qui est bon et un Dieu qui est méchant. Et ça ressemble un peu au dualisme de Zoroastre, au dualisme donc un peu babylonien, ce qui était probablement quelque chose comme de l'ordre de moins 1000, si vous voulez, ou peut-être même plus vieux que ça, on ne sait pas très bien. En tout cas, c'est vieux, plus vieux que la Bible. Mais il y a un moment où il y avait ce sort de dualisme, un dieu de la lumière, un dieu des ténèbres, un dieu qui crée, un dieu qui déconstruit. Et puis plein d'autres dieux, voilà. Et puis il y a un moment d'un dualisme plus strict, avec en éliminant les autres dieux. Donc il y a des gens qui disent, mais moi je ne suis pas spécialiste de l'histoire de ça, et puis si vous voulez, c'est souvent ces hypothèses des exégètes, ça vit ce que vit les roses, si vous voulez, ça fleurit un jour, et c'est fané le lendemain, ces hypothèses des exégètes. Mais beaucoup disent que ça peut être décalqué, si vous voulez, qu'entre les Hébreux, il y a avec un effort de clairvoyance, de lucidité, expérience spirituelle, ils arrivent à du monothéisme. D'abord l'énothéisme, hein. On n'a qu'un seul Dieu, nous on n'a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Et c'est le plus fort des autres dieux, mais il y a d'autres dieux autour, chaque peuple a son Dieu. Progressivement, ils en arrivent à un monothéisme, ils disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et il est bon. C'est ce qu'on voit dans la Genèse au début, il n'y a qu'un seul Dieu, il est bon. En face, il n'y a que du chaos, ou des humains qui choisissent de se rebeller contre Dieu, et de dire « moi je veux être Dieu à la place de Dieu ». Et donc, il n'y a que l'humain qui peut être satanique, qui peut être diabolique, finalement, dans cette révolte contre Dieu et combiner de faire le mal. Mais ensuite, peut-être qu'en contact avec les autres peuples, avec peut-être ce dualisme babylonien, ils se sont dit, mais en fait, c'est pas mal quand même pour expliquer le monde. Il y a la lumière, il y a la ténèbre, il y a le chaud et le froid, il y a le sec et le mouillé, et puis il y a le Dieu bon et le Dieu méchant. C'est limpide. Et donc, ça s'est décalqué. Ben, avec le diable, qui est donc le dieu méchant, une puissance transcendante, personnifiée, qui combine le mal. Alors il y a les anges du côté de Dieu, et puis il y a les démons du côté du diable. Et puis il y a une armée d'anges, une armée de diables qui recrutent parmi les humains, qui infectent les humains, soit de lui bon esprit pour faire des personnes qui vont dans le bon sens, soit qui convainquent des personnes pour être dans le camp des ténèbres. Alors là, c'est ce qu'on peut voir, donc enfant du diable, ange du diable. Hein. Voyez, préparé pour le diable et ses anges, ça c'est les gens qui ont choisi le mal dans Matthieu 25. Sauf que si on regarde bien Matthieu 25, on est tous à la fois les bons et les mauvais de l'histoire. Parce que ceux qui sont du côté des bons, c'est ceux qui ont donné, même ne serait-ce qu'une seule fois dans leur vie, un verre d'eau à quelqu'un qui a soif. Et ceux qui sont comptés dans les maudits qui vont avec le diable, c'est ceux qui ont une seule fois dans leur vie oublié de donner un verre d'eau à quelqu'un qui avait soif. Donc, même, on est tous à la fois sauvés et perdus. Donc, il y a tous en nous du divin et du diabolique. Voilà, si on suit ce Matthieu 25. Alors, dans Jean 8, 4, ben, et voilà, il dit, vous avez pour père le diable. Aux juifs, c'est pas les juifs en général, c'est les juifs qui s'opposent à ce qu'ils racontent. On pourrait dire les intégristes de l'époque, ou je sais pas. Vous avez pour père le diable. Il disait, on est fils d'Abraham. Il dit, bah, en fait, votre père, c'est plutôt le diable, je suis désolé. Parce que vous accomplissez les désirs de votre père. Et il y a une description du diable, voilà, meurtrier par principe, dès le principe, ne se tient pas dans la vérité, c'est-à-dire la fidélité, donc la voilà, fidélité à Dieu, la fidélité au bien, la fidélité à la vie, la fidélité aux autres. Et quand il parle, dit le mensonge, ben c'est, voilà, c'est sa propre nature. Voilà. Alors c'est un peu une figure du diable, et puis on voit dans le tentateur, Jésus lui-même est tenté de vivre au service de son seul physique, volonté tenter de mettre tout le monde à ses pieds, de même Dieu à ses pieds, et finalement diable, ben, c'est la figure de la tentation en nous. On voit qu'il infecte Judas, et puis on voit finalement Jésus qui dans le Notre Père nous enseigne à prier délivre-nous du mal. Donc puisqu'il y a un article, le mal, c'est un mal personnifié, c'est la source du mal finalement. Alors, comment penser à ça? Moi, je pense, si vous voulez, personnellement, que c'est vrai que c'est clair de dire qu'il y a un Dieu bon, un Dieu méchant. Notre ami Wilfred Monod, paraît-il, était quand même plutôt dualiste. Bon, pourtant, il a son portrait entre les deux bustes. Moi, je ne suis pas fan de cette idée, même si c'est très clair, parce que les choses ne sont pas symétriques. Donc, par exemple, le chaud, ça existe, c'est les particules qui ont une vitesse. Mais le froid, ça n'a pas une réalité comme le chaud. Le froid, c'est simplement l'absence de chaleur. C'est pas symétrique, si vous voulez. C'est comme la lumière, c'est quand il y a des photons ou qu'il y a un champ électromagnétique. Quand il y a des ténèbres, ben, c'est pas, il n'y a pas des particules de ténèbres. C'est quand il n'y a pas de lumière. Et moi, j'ai l'impression, si vous voulez, que... je comprends, oui, pour que quelque chose existe, il faut qu'il y ait une source d'évolution, quelque chose qui se combine, mais pour que le mal existe, c'est surtout le chaos qui est à l'œuvre, si vous voulez. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une puissance transcendante qui combine le mal, ce n'est pas bien explicatif, à mon avis, de la réalité de ce qu'on voit dans le monde. C'est plutôt le chaos qui est à l'œuvre, ou bien l'homme, comme on voit dans ces textes, qui devient diabolique. À mon avis, c'est plus cela qui est dit, finalement. C'est plutôt le diabolique dans l'homme, en fait. C'est la diabolique de l'homme. Alors, j'aurais dû mettre Job, si vous voulez, parce qu'il y a cette petite pièce de théâtre au début de Job, avec Dieu et le diable qui se font un pari, finalement. Mais je pense que, à part quelques personnes qui vont lire ça littéralement, on est bien d'accord pour dire que c'est une parabole, c'est une façon de parler. Qui aurait pu être là pour prendre note de cette discussion, de ce pari? C'est carrément le pari de deux adolescents dans un bar, si vous voulez, qui se dit « t'es pas chiche de, t'es pas cap de ». Mais moi, je suis plus fort que toi, mais moi, je pisse plus loin, je ne sais pas. C'est plutôt ce genre de choses entre Dieu et le diable. Et je ne pense pas que ce texte tellement soit à prendre au sens littéral. Mais bon, on peut avoir d'autres opinions, tout à fait. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt comme cela.
Transition ? Sans transition. Voilà deux livres, un qu'on trouve rue de Lille et un qu'on trouve pas rue de Lille. Précis de doctrine chrétienne, c'est un livre de 349 pages, écrit par Jules Marcel Nicole, qui a été pasteur notamment dans l'église réformée évangélique d'Alès, et puis professeur dans les instituts bibliques. Et là, une introduction à la théologie systématique écrite par des professeurs qui sont plutôt de l'Église protestante unie de France, 621 pages. 621 pages, un paragraphe sur le démonique chez Paul Tillich, 349 pages, 5 pages sur les anges, 5 pages sur Satan et sur les démons. Ça, c'est pour vous témoigner un peu du traitement de ce que nous sommes en train de parler, en fonction de celui qui présente les choses. C'est-à-dire que les deux sont des ouvrages de ce qu'on appelle dogmatique, donc c'est un discours rationnel sur la foi chrétienne. Et pour les uns, parler des anges et des démons va être une nécessité, et pour d'autres, ça va être un oubli, je ne sais même pas s'il est pensé, quoi. C'est que ça ne rentre pas vraiment dans les préoccupations fondamentales. Je vous lis quelques passages de ce précis. Je vous lis dans les citations que j'ai prises, c'est plus simple. La croyance à l'existence des anges n'est pas une superstition folklorique bonne pour le Moyen-Âge. Donc, vous avez plutôt intérêt à y adhérer parce que c'est comme ça que les choses se sont passées, en quelque sorte. Et il ajoute, les anges sont des êtres créés, nous n'avons pas d'indication précise sur le moment où Dieu leur a conféré l'existence. Le chapitre 1er de la Genèse ne parle que du monde matériel et n'insère pas dans le fil du récit l'apparition des êtres célestes. Donc, vous voyez, Jules Marcel Nicole est quelqu'un qui va, je dirais, essentialiser la question de ces créatures, c'est-à-dire leur donner une consistance, une réalité. Si on va du côté des démons, il va dire à quel point Satan et les démons sont des créatures donc créées. Avant qu'Adam et Ève ne se rendent coupables, le serpent était là. Il faut une forte dose de naïveté pour imaginer que Moïse est considéré un simple reptile comme l'auteur de la tentation. Sous la forme du serpent, un adversaire d'une toute autre envergure était à l'œuvre. D'ailleurs, l'Apocalypse nous le confirme, le serpent ancien est appelé le diable et Satan. Et il continue, Satan est une créature de Dieu. Les êtres démoniaques sont certainement compris dans une liste qu'il donne. Car dans une épître, l'apôtre déclare que le Christ a dépouillé les principautés et les pouvoirs et en a triomphé par la croix. Et alors, il continue en disant « Celui qui aujourd'hui est Satan n'a pas été créé mauvais. Tout ce que Dieu avait fait était très bon. Comment le mal a-t-il pu germer dans le cœur de cet esprit céleste ? C'est le mystère complet. » Plus inconcevable encore que la défaillance d'Adam, qui lui, du moins, a subi une sollicitation du dehors. Voilà. Pour vous donner un peu une tonalité au sein du protestantisme, qui consiste à voir dans ces êtres un peu fantastiques, finalement, non seulement des réalités, mais finalement des réalités voulues par Dieu. Et moi, j'aimerais envisager les choses sous un autre angle. Et en partant des textes bibliques, en disant finalement tout ce qui va être développé autour de ces créatures un peu spectaculaires participe de deux moments. Le premier moment, c'est l'imaginaire. C'est-à-dire que la vie quotidienne nous fait comprendre qu'il y a du non-visible dans la vie. La justice, par exemple, c'est du non-visible. L'amour, c'est du non-visible. Et donc, il y a du non-visible qui sont des parties intégrantes de notre vie. Et pour essayer d'en parler, on va mettre des mots là-dessus. Et en mettant des mots, on va leur donner une sorte de réalité, mais encore plus lorsqu'on va en faire des sujets. Je prends un exemple. Vous savez tous que c'est drôle finalement quand un enfant nous dit que le soleil se couche, parce qu'on sait que le soleil ne se couche pas, il est fixe, etc. Mais ces temps-ci, on dit que la nature se rebelle. Est-ce que la nature peut se rebeller ? On peut se dire que finalement, tout objet, toute chose, étant un être inanimé, est incapable d'être le sujet de la moindre action. Un objet est fait pour être objet, pas pour être sujet. Et à partir du moment où on va parler d'un objet et on va en faire un sujet, alors en fait, on va lui donner une vie, on va lui donner une histoire, une personnalité. Et quand on parle de la justice, c'est qu'on dit que la justice est aveugle. On commence à la personnaliser. Et quand on dit que, je sais pas moi, la République connaît tous ses enfants, c'est bien gentil, mais le matin, on ne se lève pas en saluant la République. Je veux dire que, à la fois, la République a une existence, et puis en fait, elle n'a pas une existence au sens où nous en avons une, nous. Et donc, nous nous retrouvons, je crois, avec des textes bibliques qui essaient de rendre compte de la partie non visible de la vie, qui vont mettre des mots sur ces aspects non visibles, et qui, en mettant des mots, nous mettent dans une situation où il va y avoir ce qu'on pourrait appeler une pression historique. Et la pression historique, c'est que nous arrivons dans la vie entourés de mythes qui existent, entourés de récits qui racontent, à des fins pédagogiques, la dimension non matérielle, non physique de la vie, la partie invisible, disons. Partie, je sais pas, les sentiments, par exemple, etc. Et du coup, on se retrouve avec ce que les anthropologues appellent des archétypes, qui vont faire en quelque sorte tache d'huile, c'est-à-dire qu'ils vont entrer dans le langage courant, ils vont entrer dans les expressions populaires, et ils vont devenir structurants. Et ça passe dans ce qu'on appelle la religion populaire. Donc, à partir, par exemple, de textes bibliques qui essaient de rendre compte de cette partie non sensible, peut-être. Marc disait peut-être que les anges, ça relève de l'expérience non sensible. Eh bien, les textes bibliques qui essaient de mettre un peu le doigt, comme si les textes bibliques avaient un doigt, vous voyez, hein, les textes bibliques sont des objets. Comment ils peuvent être sujets de la moindre action, hein? Vous voyez un petit peu le problème dans lequel on se trouve. Mais toujours est-il que les textes bibliques peuvent avoir comme perspective de mettre en évidence cette dimension spirituelle, par exemple. Donc, ils mettent des mots, ils formalisent, et ces formes deviennent, en quelque sorte, des créatures. Et cela a été particulièrement mis en évidence par Gaston Bachelard, par exemple. Gaston Bachelard va s'intéresser aux signes, va s'intéresser aux archétypes, et aux métaphores, aux symboles. Et Gaston Bachelard va nous rendre attentifs au fait qu'il ne faudrait pas juger les symboles en fonction de leur forme, mais plutôt en fonction de leur force. Et il va dire, finalement, si on devait classer les symboles, ce qu'il faudrait, c'est les classer par la direction qu'ils impriment. Plutôt que, est-ce que ce sont des objets liés à la cuisine, est-ce que ce sont des objets ou des symboles liés au militaire ou à l'agricole, est-ce que ce sont des objets liés à l'habitation, etc. Non, les directions. Direction et puis le temps, ce qui va faire un premier classement entre ce qu'on appelle les symboles diurnes et les symboles nocturnes. Et ça va être vrai pour nos anges, nos diables, etc. Et puis ensuite, ce qui va être symbole je vous donne les termes techniques, hein, mais symbole d'inversion, symbole d'emboîtement, etc. Autrement dit, tout ce qui provoque du mouvement. Et ce qui va intéresser Bachelard, c'est de dire, enfin, c'est de constater que toutes ces métaphores, moi j'appelle ça des métaphores, on y reviendra, sont en fait source de mouvement par rapport à la représentation de soi. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui nous permettent de mieux nous situer dans notre environnement et de donner du sens. Et le sens, eh ben, c'est une histoire de mouvement. Ce n'est pas une histoire de position statique. Alors, je ne sais plus quel est l'anthropologue qui avait écrit ça, mais pour illustrer mon propos, en 1774, il y a Goethe qui écrit son Werther, là, avec tout ce qu'il y a de scandaleux sur, en quelque sorte, l'éloge du suicide, etc. 1774, le Werther de Goethe. 1820, les suicides des jeunes. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet prescriptif. Alors, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet total à vérifier? Mais l'anthropologue constate que il y a une sorte de mythe qui se met en place et qui devient opératoire pour la génération suivante. Et que la question du suicide, finalement, entre dans l'histoire de l'adolescence par le biais de cette mise en forme. Oui ?
Il y a eu un article dans la presse tout récemment sur ce thème-là, en disant qu'effectivement, je ne sais pas si c'est à propos de cet Allemand qui s'est suicidé en avion, et que ça a provoqué une vague de suicide.
Alors, là, l'anthropologue en question disait que c'était la génération des cadets qui avait été en quelque sorte instruite par ce livre et qui en avait fait, si ce n'est un programme, du moins une possibilité tangible. Au même titre que la lecture de la Bible autorise le croyant à certains comportements. Et je reviens toujours sur cette question-là, mais l'amour des ennemis, c'est pas un truc normal, ça. Je veux dire, il faut l'avoir lu quelque part pour y penser.
Moi, j'ai rien, tout doucement.
Bravo. Moi, si on m'en avait pas parlé, je l'aurais pas inventé, quoi.
Oui, moi aussi, là, j'ai eu pour m'en
parler. Ouais. Donc, vous voyez, un côté prescriptif, du coup. Et puis, on va prendre. Je vous ai fait une petite collection de ces personnages pour voir les représentations aussi. Quand on a vu là avec Exode 3 par exemple, on voit bien que l'ange de l'Éternel ou le messager de l'Éternel ne peut pas être un personnage. D'abord parce qu'il y a une sorte de collusion avec l'Éternel qui appelle Moïse. Et puis parce que si c'était un personnage dans un buisson qui est en train de brûler, il y aurait un problème physique. L'ange désigne manifestement, tu disais, Dieu qui se manifeste. Hein, c'est une théophanie ou... Donc, c'est plutôt un processus qu'un personnage. Mais, du coup, après, ce processus, comme il devient une sorte de sujet d'une action, eh bien, on en fait un personnage. On en fait un personnage, spontanément, quoi. Comme si on disait que telle voiture fait une course folle sur le périphérique, quoi. Non, en fait, il y a quelqu'un qui est au volant et qui maîtrise le véhicule. C'est pas la voiture. C'est pas les concepteurs de la Mercedes qui sont en cause dans le pont de l'Alma, etc. Bon. Je vais passer à un petit document qui va nous présenter différentes choses sur les êtres fantastiques. Alors, tout d'abord, les djinns. Ça, c'est une sorte de clin d'œil au gardois. Et le djinn, c'est de Nîmes. Bien. Alors, les djinns, vous voyez, vous en avez des représentations, là. Avec, tout en bas, une représentation de Iblis, qui est en fait le Satan dans l'islam. Et donc, ces représentations-là, vous voyez, dans l'islam, on ne fait jamais de représentation, bien évidemment, ça, c'est bien. C'est ce qui va être aussi à l'origine de l'iconographie du diable avec les cornes, les pattes fourchues, voilà, tout le fantastique que vous connaissez. Les djinns sont encore à part par rapport aux humains et par rapport aux anges. Qu'est-ce qu'on sait d'eux à travers le Coran ? Bon, alors que ce sont des créatures, que Dieu a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Ensuite, comment sont-ils ? Eh bien, ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, et même plus égarés qu'eux. Les djinns, finalement, ce sont des esprits que l'on voit parfois dans les reportages sur le pèlerinage à la Mecque. Parce que dans toutes les prescriptions du pèlerinage à la Mecque, il y a notamment la chasse aux djinns. Si je file la métaphore, je dirais, attention, ce n'est pas le moment des soldes. C'est visible par le fait que les pèlerins vont prendre des cailloux et vont les jeter sur des stèles en pierre. Et c'est une façon de chasser les esprits, qui sont là, a priori, des esprits maléfiques, et qui correspondent un peu à cette tradition qu'on avait vue il y a quelques années, quand on avait parlé des moines du désert, avec notamment la tentation d'Antoine, qui devait lutter contre des esprits qui le tentaient, qui l'invitaient à faire toutes sortes d'excès, de folies et de choses affreuses au regard d'une ligne de pureté. Et donc, les djinns sont ces esprits qui perturbent le chemin de l'homme. On a ça avec Jésus qui est tenté dans le désert aussi. Et voyons, on pourrait se dire, et je crois que c'est comme ça que les musulmans le comprennent, c'est une sorte de projection de notre vie quotidienne, c'est-à-dire l'homme aux prises avec le monde. Et l'homme aux prises avec le monde, c'est l'homme aux prises avec les difficultés, avec des contrariétés, avec des perturbations. Et donc, le djinn, c'est une façon de formaliser ce qui est une force d'opposition dans notre vocation, par exemple. Alors, donc vous voyez à quel point ils sont sympathiques, etc. Tout va bien. Ensuite, dans le judaïsme.
Ils sont décrits.
Dans le Coran. Vous voulez des références du Coran? Bien, je peux vous laisser la feuille, mais sinon, il y a quelques sourates. Je vois la sourate 15, verset 27, c'est quand ils sont créés à partir du feu. Ou la sourate 55, verset 15. Le fait qu'il meure, c'est dans la sourate 55, verset 26. Il meurt à l'exception d'Iblis, qui lui ne mourra qu'à la fin des temps. Ça, c'est la sourate 7, verset 14. Voilà. Donc, je vous ai mis sur la deuxième page le plérôme, c'est-à-dire l'organisation des cieux selon la Kabbale juive. Dans la série interreligieuse, comme ça, on y aura droit pour quelques monothéismes. Donc, vous voyez trois sphères, hein, c'est-à-dire trois niveaux, et puis dans chaque niveau, des ordres. Et donc, vous allez retrouver votre Gabriel, qui est l'archange recteur des anges, Raphaël, qui est l'archange recteur des archanges, et Michel, je présuppose que c'est Meiel.
Michael. Deuxième ligne à droite.
Ça marche. Donc, voilà, vous avez la correspondance avec les planètes dans les vertus pour Michael. Je trouvais que c'était intéressant parce que c'est une façon de montrer la saturation de notre environnement. C'est-à-dire qu'il y a une... Je crois qu'il y a un positionnement tout à fait opposé au protestantisme qui, selon les mots de Marcel Gaucher, est la religion, la sortie de la religion. Hein, c'est-à-dire, le surnaturel est complètement renvoyé. On est institué comme un homme, enfin comme des hommes et des femmes, responsables, avec une pleine liberté suscitée par Dieu, sans que nous soyons entourés de cette cohorte de personnages intermédiaires qui, en quelque sorte, nous dispenseraient d'exercer notre responsabilité, qui, comme Jésus avec ses disciples, sont toujours en train de réparer les bêtises. Ils sont en train de cueillir des petits épis de blé pendant le Shabbat pour se restaurer. Les pharisiens leur tombent dessus. C'est Jésus qui les défend. Vous voyez ? Comme s'il y avait toujours quelqu'un pour... L'ange gardien. Bon. Eh bien, ça, le protestantisme l'a quand même passablement évacué. Et ici, dans la Kabbale, il y a cette idée que, finalement, non seulement... notre temps serait scandé par le respect des 613 commandements, mais aussi que l'espace serait finalement organisé en fonction de tous ces niveaux qui, ultimement, rendent Dieu présent. Alors, je continue un petit peu ce parcours avec... à la fois Lucifer, bon, on n'a pas spécialement parlé. Lucifer, il est réputé comme étant finalement une métaphore du roi de Babylone. Parce que dans Ésaïe, au chapitre 14, verset 14, après avoir dit que le roi de Babylone élevait son trône au-dessus des étoiles de Dieu, il est dit au verset 14 qu'il serait semblable au Très-Haut, et au verset 15, mais... tu as été précipité dans le séjour des morts. Et puis dans Luc 10, on aura aussi Jésus qui dit « Je voyais Satan tomber comme l'éclair ». Et Lucifer, ça veut dire « porteur de lumière ». Donc c'est l'astre qui tombe, c'est la chute. Comme on parle d'une chute pour l'homme, eh bien là, il y a la chute. Et donc c'est à chaque fois des représentations de ce personnage qui tombe. Bon, le dragon, je vous l'ai remis parce que... ce que je voulais, c'était montrer aussi la permanence de certains symboles aujourd'hui. Donc, on a les régiments de dragons, par exemple, hein, qui nous viennent de Napoléon, d'ailleurs, mais dont le symbole dragon est toujours l'emblème. Et puis, à gauche, je vous ai mis Arthur Pendragon, quand même, avec la légende du roi Arthur, Merlin. Hein, là, il y a Merlin et Arthur. Et puis, il y a le dragon rouge qui est en train de se battre contre le dragon blanc pour savoir si on va l'emporter contre les Saxons, etc. Et puis, le dragon rouge va donc devenir l'emblème du Pays de Galles. Bon, le dragon est sur bien d'autres choses encore. Permanence de ces symboles. Est-ce que Satan conduit le monde encore aujourd'hui ? Eh bien, l'univers religieux réactive de temps à autre ces symboles-là. La dernière fois que... on a eu cette réactivation de façon magistrale, c'était au début des années 80, en Iran, avec l'ayatollah Khomeini, qui a assimilé les États-Unis au grand Satan. Nous, la France, on n'était que le petit Satan, parce qu'on avait soutenu le Shah d'Iran. Bon, on avait aussi hébergé l'ayatollah Khomeini, mais bon. Et... réponse du berger à la bergère, 1983, Ronald Reagan, devant une assemblée de Jules Marcel Nicole, enfin donc d'Evangelicals, va qualifier l'Union soviétique d'empire du mal. Vous voyez, c'est une formule tout à fait religieuse. George Bush ne fera pas autrement hein, avec l'axe du mal. Donc à partir du 11 septembre, l'Iran, la Corée sont l'axe du mal et l'ennemi juré Oussama Ben Laden est finalement une figure du diable. Et d'ailleurs Oussama Ben Laden, qui lui non plus n'était pas en reste, dès 1998 avait appelé, je cite, « chaque musulman à attaquer les troupes satanistes américaines et leurs démons alliés ». Donc, vous voyez... c'est comme si on utilisait un vocabulaire chargé symboliquement pour l'emporter en absence d'argument. C'est-à-dire qu'on se réfère à une dimension symbolique irrationnelle, faute de rationalité. Qualifier l'autre de démon, de diable, ouais, c'est un peu une accusation gratuite, quoi. Et c'est le propre même du satanisme. C'est-à-dire que le Satan, c'est l'accusateur. Il n'a rien d'autre à faire que d'accuser. Et à partir du moment où on accuse, on ne laisse pas l'autre indemne. C'est-à-dire que condamné, attaqué, calomnié, il en restera toujours quelque chose. Donc, ça vaut toujours le coup de calomnier quand on veut terrasser l'adversaire. Et Sébastien Fatt, d'ailleurs, lorsqu'il analysait un peu les discours de George Bush, disait lui-même que ses références au bien et au mal correspondaient bien au néo-messianisme des États-Unis. Du côté de l'Église catholique, je vous cite juste Paul IV, qui avait stigmatisé les fumées de Satan en constatant le début de l'effondrement de l'Église catholique, hein, et qui avait dénoncé un monde sous la domination d'une puissance qui est grande et indéfinissable. Ses successeurs n'ont pas spécialement été prolixes en la matière. Alors, le pape François, effectivement, est dans un autre registre, mais c'est un registre interpersonnel. C'est-à-dire qu'il est dans une culture latino-américaine où toutes ces petites créatures surnaturelles peuplent la nature. Et lorsqu'il y a eu la conquista, les missionnaires catholiques ont en fait transformé les divinités locales en saint de l'Église catholique. Et donc, on gardait un petit peu la religiosité. Et François, évêque argentin, est habitué finalement à gérer le surnaturel, et notamment à gérer le mal à travers le rituel de l'exorcisme. On peut s'en émouvoir, sauf si on fait une lecture de l'exorcisme qui n'est pas littérale, mais de l'ordre du symbolique. C'est-à-dire l'exorcisme comme le fait de rejoindre la personne dans sa culture et de neutraliser les éléments négatifs de sa culture. Hein, je vous disais avec Bachelard qu'on pourrait prendre les symboles et les métaphores comme des directions, comme des puissances qui donnent du sens. Eh bien, lorsqu'il y a une puissance qui donne un mauvais sens, et c'est le principe du démon, hein, le démon, c'est jamais une puissance, c'est neutre. Mais on va dire que finalement c'est démoniaque quand ça donne une puissance dans un mauvais sens. Eh bien, le fait de neutraliser cela va être un exorcisme. Vous voyez, quand on dit dans notre langage courant « exorciser nos peurs », ça passe dans nos milieux rationnels. Mais exorciser une peur, c'est dire quoi? C'est dire que ce qui te fait peur, c'est rien, c'est relativiser. Eh bien, l'exorcisme travaille là-dessus. L'exorcisme travaille sur le fait que ce qui a une emprise sur toi n'a en fait pas la force que tu lui confères.
Ça veut dire qu'il y aurait de l'imaginaire ou bien un enseignement antérieur, une culture antérieure, une éducation antérieure.
Ce que j'appelle la pression historique. L'imaginaire, c'est pas quelque chose de négatif, c'est une des instances psychiques. Et l'imaginaire se nourrit des matériaux culturels qui sont à notre disposition. Et des fois, abusivement, parce qu'il y a des choses qui traînent et qui sont fausses. Il y a d'ailleurs, la plupart des choses qui traînent sont fausses. Luther et Calvin n'ont pas dit des choses exceptionnelles, mais je vous cite Luther parce que... Je sais pas, parce que ces temps-ci, je dis du bien et là, je vais dire du mal. Bon, alors, Luther, comme tout le monde, a dit « Les anges sont des créatures spirituelles que Dieu a créées sans corps pour le service de la chrétienté et de l'Église. » Et puis il ajoute « C'est une idée que j'ai et dont je suis bien persuadé. Les anges sont en mouvement. Ils revêtent leur armure, ils bouclent leur cuirasse, car le dernier jour approche et ils se préparent au combat. » Vous êtes assis. « Et ils précipiteront le pape et le Turc au fond de l'enfer. »
Ce qui est leur place, en fait.
ami des relations pacifiées, bonjour.
À la fin de sa vie, il rajoutait les juifs en plus, tant qu'à faire.
Oui, là, il a dû être pris de court. Bien. Bon, je pars de Karl Barth, qui pourrait être suspecté d'être le plus sympathique pour la cause littéraliste de ces êtres surnaturels. Karl Barth, lui, va en fait poser l'équation assez étonnante, finalement, hein, pour Karl Barth. Satan, c'est le non-être. Vous voyez, c'est très philosophique, hein, c'est très Heidegger, finalement. Et il va dire, Satan, ce n'est pas un ange mauvais, c'est un non-ange. C'est une citation. Hein. Car le néant n'est ni être ni apparence. Celui qu'on appelle l'ange des ténèbres n'est donc pas un ex-ange de lumière. Il est non-être, non-savoir. Il est mensonge, irréalité, vide, non-personne. Voilà. C'est tout à fait ce que Marc disait sur... les ténèbres, c'est pas une matière particulière, c'est l'absence de lumière, en fait. Ou le froid, c'est l'absence de chaleur. Peut-être que pour le froid, ça peut se négocier un peu quand même, non ?
Je crois pas, non.
D'accord, ok.
Parce qu'il existe un zéro absolu, c'est quand il n'y a aucune énergie dans les particules, c'est la non-énergie.
Ok.
Je crois. Je sais pas. C'est ce qu'on m'a appris. C'est tout ce qu'on apprend, on apprend beaucoup. On entend beaucoup de choses.
Ouais, parce que la théorie des cordes dit qu'il y a aussi une température maximale absolue. Donc on pourrait se dire, bon voilà. Bon, enfin bon, on va pas, de toute façon, c'est pas le sujet.
Oui,
on
mais si, parce que la vitesse est finie. La vitesse, c'est pas, elle ne peut pas aller à l'infini. Des particules, elles sont. Mais oui. Donc c'est possible. Mais.
À voir. Ok. Bref. Je veux dire, le froid, c'est pas trop.
Enfin bon,
ouais, bon. Enfin, alors je dis que c'était fini, c'était fini. Ouais, c'est ça. Et là, l'ange peut mettre son armure, ça va y aller. Ouais. Bon, alors pour Bultmann, effectivement, comme tu le disais, on ne va pas vraiment y revenir, on parle souvent de Bultmann. Le diable, c'est de l'ordre du mythe, hein, c'est du discours, c'est du langage, c'est du symbole, et donc les textes bibliques doivent être démythologisés, et donc il va liquider la croyance aux esprits, aux démons. Il va dire ce sont des prédications, en fait. Ça permet d'être porteur de sens. Stilich, lui, va aller un peu sur le versant de la psychologie. Hein. Quand je parlais de structuration mentale, voilà, Stilich va parler de cela, hein, en disant que le diable, c'est la personnification du mal. Et ça permet de pouvoir... nommer soit ses élans, soit ses connexions qui finalement visent, enfin par exemple dévoient une analyse. Alors on tourne un petit peu les pages parce qu'il y a les sorcières de Salem. Et je me disais, les sorcières de Salem, ça rentre précisément dans la définition de Paul Tillich, en fait. Hein, c'est-à-dire que on va avoir tendance à accuser les personnes qui ont un comportement que l'on va qualifier de pathologique et qui, en fait, ne rentrent pas dans notre normalité. Mais depuis le 19e et 20e siècle, on sait que le normal et le pathologique sont des concepts qui sont quand même très culturels. Et que ce qu'on appelle le pathologique, pour beaucoup, c'est des fois le normal. Enfin bon. Il y a un théologien en 68 qui dit que finalement, une grande partie de la démonologie, élaborée sous le nom d'enseignement chrétien, n'est pas autre chose que le résultat d'une légèreté indigne de la théologie. Les représentations que l'Église donne du monde des esprits trahissent leur origine folklorique et les modifications que ces images et ces mythes ont suivies au contact d'autres cultures et d'autres philosophies, et elles ne nous convainquent plus. Vouloir à tout prix les conserver comme si elles formaient une partie essentielle de la révélation, ce serait courir le risque d'exposer au ridicule le message chrétien tout entier. Cette croyance a été malfaisante, car le fait d'attribuer toute espèce d'infortune à des créatures invisibles en guerre contre le genre humain a souvent empêché ou retardé chez les hommes un diagnostic correct et un traitement approprié des maux qui les affligent. Ce fut le cas de la chasse aux sorcières, de la psychose, de la possession, etc. Donc c'est un théologien qui s'appelle Kelly, et c'est dans les années 68. Les formes culturelles, c'est très intéressant. Bon, l'hystérie, par exemple. Ça a eu vent début du XXe siècle. Maintenant, l'hystérie, bon, dans le langage populaire, oui, mais plus beaucoup. Les évanouissements. Je veux dire, avant, on était toujours à sortir les selles pour ranimer les personnes qui s'évanouissaient parce qu'il y avait une mauvaise nouvelle. Les impôts arrivaient, paf, on s'évanouissait, etc. Bon, maintenant, il n'y a plus d'évanouissement, quoi. Il y a des malaises vagos, mais...
J'ai vu dans les cultes charismatiques, hein.
Ouais. Ouais. Ah, moi, j'en ai eu des fois ici aussi, mais...
bon, c'est un malaise vagal.
Oui, c'est ça. Alors, c'est ça, mauvaise oxygénation, tout ça aussi, mais je crois qu'il y avait aussi une dimension culturelle. C'est-à-dire que ça faisait partie du savoir-vivre. Alors, c'était tellement intégré que c'était pas fin. Je veux dire, il y avait, à mon avis, de vrais symptômes. Mais précisément, moi, ce que j'aimerais peut-être vous dire, enfin, comme hypothèse, c'est que ces créatures fantastiques sont des symptômes, en fait. Vous voyez qu'elles sont là comme ce qui affleure de l'imaginaire, de l'intuition. Voilà, des symptômes. Et du coup, un symptôme, vous voyez, c'est pas le syndrome, c'est pas le cœur du sujet. C'est juste un accident au sens aristotélicien du terme, c'est-à-dire c'est ce qui nous permet d'en être conscient, en fait. Bon, les théologiens catholiques dans les 70 vont eux aussi partir sur le fait que le diable n'est pas une figure personnelle, mais une non-figure, quelque chose d'anonyme et sans visage, peut-être sans dents, etc. Un être qui se pervertit dans le non-être, c'est une personne selon le mode de la non-personne. Il y a un dominicain en 97 qui fait un truc bizarre, c'est Dominique Serbelot, je le cite. Il dit... Le diable existe, mais il ne faut surtout pas y croire. Ça, c'est moche, vous voyez.
Il existe, mais on
ne croit. Oui, mais il existe, croire au sens de lui faire confiance, l'adorer comme on aurait foi en Dieu, finalement. Ça, c'est un peu comme Karl Barth qui disait « Je ne sais pas si tout le monde sera sauvé, mais je veux y croire. » Vous voyez, c'est un peu le pendant. Bon, c'est triste quand même. Bon. On continue avec quelques représentations d'anges que vous connaissez bien. Il y a la représentation que vous avez à Saint-Sulpice, du combat de Jacob avec l'ange par Delacroix. Et puis il y a l'ange qui retient le bras d'Abraham au moment où il va sacrifier son fils Isaac. Bien, vous voyez, j'aime bien Rembrandt, mais Rembrandt nous flingue le texte. Parce que le texte ne dit pas qu'un ange attrape la main d'Abraham et l'empêche de sacrifier son fils. Il y a un ange qui appelle Abraham, Abraham répond « me voici ». Et puis ensuite, il y a un petit dialogue où il découvre qu'il y a un buisson avec un bélier dont les cornes sont coincées dedans et que c'est ça qu'il doit sacrifier à la place de son fils. Autrement dit, il n'a pas été physiquement retenu de sacrifier son fils. C'est le texte biblique qui montre qu'il n'est donc pas un fanatique. Alors que là, on pourrait quasiment penser que c'est le ministre de l'Intérieur qui, au dernier moment, chope le fanatique et l'empêche de commettre son attentat, quoi. Mmh. Bon. Voilà le problème de l'image. C'est qu'à partir du moment où il y a eu des images, ça a personnifié. Et il y a eu une sorte d'inflation. Comme c'était des personnages, il fallait qu'ils fassent des choses. Si je vais au bout de cette progression, quelqu'un comme Daniel Siboni, qui était venu faire une conférence ici, dit que les anges sont les porteurs de l'être. Parce que pour lui, Dieu, c'est l'être, le fondement de l'être. Et donc les anges sont les porteurs de l'être. C'est ce qui, en permanence, nous reconnecte avec la possibilité d'être, avec ce renouvellement de l'existence. Et donc, là, avec des images, on est obligé de leur faire jouer des scènes aux anges. Sinon, ça serait insignifiant, ça. Ça serait tristouné, vous voyez. Et donc, c'est peut-être là la réserve des réformateurs vis-à-vis de l'image, c'est que l'image travestit et trahit finalement la pensée d'un texte, une pensée littéraire. Voyez tous les drames que constituent les adaptations cinématographiques des livres. Ça nous blesse le cœur à chaque fois. Bon, ben là c'est un peu pareil. Et alors du coup, on ne s'attend pas à voir des personnages aussi moches que ces diables, hein, et que ces affreuses choses. Et alors du coup, quand on a un vrai démon en face de nous, eh ben, on ne le repère pas. Hein, la question, est-ce que vous avez déjà rencontré des diables, enfin des anges, on peut dire, avez-vous déjà rencontré des diables aussi? Et il y en a. Je vous en ai mis sur la page suivante. Il y a bien sûr les gargouilles. Pareil, pareil. Mais après, vous voyez, les démons personnifiés de manière contemporaine. Vous reconnaissez Dark Vador. Mais il y a aussi toutes ces créatures les plus monstrueuses qui soient. J'aurais pu vous en mettre d'autres. Et je vous ai rajouté... je vous ai rajouté d'autres choses encore sur la page globalisation. Hein, parce que ça peut être des créatures un peu surnaturelles. Donc, je vous ai mis voilà, à la fois le dollar, les signes ostensibles de la globalisation, etc. Bon. Et puis, je finis avec quelque chose qui est une sorte de reprise biblique dans le champ non religieux. La peste de Camus. À mon avis, la peste de Camus, elle fonctionne exactement comme nos textes bibliques. Au lieu d'avoir nos créatures surnaturelles, le démon, le diable, un séraphin, etc., la peste. La peste comme métaphore du mal. Et le dernier paragraphe, à mon avis, est celui qu'il faut avoir lu, tout simplement, donc je vais me contenter de vous lire ça. Donc, la peste qui ravage, etc. Et une fois que ça semble fini, écoutant en effet les cris d'allégresse qui montaient de la ville, Rieux se souvenait que cette allégresse était toujours menacée. Car il savait que cette foule en joie ignorée, et qu'on peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais. Qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi dans les meubles et le linge. Qu'il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que peut-être le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. Alors, bien sûr, vous pouvez le prendre comme un traité de médecine, mais c'est une métaphore de toutes les pestes possibles, et qu'elles soient brunes ou pas d'ailleurs. Il n'y a pas que les pestes buboniques. Et voilà, il me semble que nos créatures fantasmagoriques, ou en tout cas fantastiques, jouent sur ce registre-là. Pouvoir manifester ce qui est de l'ordre de l'invisible et qui est pourtant bien à l'œuvre dans notre existence.
Ouais. Ce qui est étonnant chez Camus, c'est cette dualité-là qui est pour le malheur et l'enseignement de l'homme, comme quoi le mal, la peste, apporte et porteur d'un enseignement.
Oui, par exemple, la peste permet de changer la théologie de certains personnages. Parce que quand le jeune enfant meurt, ben, ouais, il y a un problème entre le Dieu infiniment bon et le Dieu infiniment juste, quoi. Et du coup, c'est le lieu d'un enseignement. Ouais. Et tous les personnages travaillent à la transformation de la personne, en fait. Pour son bonheur ou pour son malheur.
Et on peut le voir comme on veut. Soit on le voit comme un malheur, soit on essaye de trouver quelque chose qui va nous porter vers...
Je dirais que les textes bibliques sont là justement pour ajuster notre analyse, notre regard. Ce sont en fait les vers correcteurs pour voir si le déplacement opéré est un déplacement vitalisant ou un déplacement mortifère. Je crois que c'est ça l'intérêt des archives bibliques, c'est de nous aider à repérer ce qui est, disons, de l'ordre de la dynamique divine ou de la démonique. Et on se plante souvent dans les analyses. Bon, après, on aurait pu finir par un petit rite d'exorcisme, peut-être, pour voir si parmi vous, il y en a qui sont des anges ou au contraire, qui sont des fils de Satan. Mais comme on n'a pas le temps, on ne va pas le faire. Pour l'an prochain, est-ce que vous auriez des désirs de thèmes, de manières de faire pour notre approfondissement théologique soit un fil conducteur, soit des approches particulières, des thèmes, des sujets.
Ou si on continue comme ça, des thèmes, un thème à chaque séance.
Si vous avez des idées de thèmes, des petites choses qui vous titillent. Eschatologie proleptique, par exemple.
Vous nous les envoyez, sinon par mail. On fera le programme, de toute façon, quand même...
Bientôt.
Bientôt. Il faudra le faire quand même bientôt, parce qu'il faudra que ça soit dans les petits bulletins qui annoncent. Donc...
Oui, il faut qu'on fasse ça avant l'été, quoi.
Ok, d'un côté, bon retour, et puis donc, à tout bientôt. Merci de nous avoir rejoints.